Éric Moisan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tête de liste pour la liste Lutte ouvrière pour les municipales de Rouen. Donc, pour reprendre le slogan « Faire entendre le camp des travailleurs ». Pour vous présenter en quelques mots, avant de revenir sur les valeurs évidemment portées par Lutte ouvrière et vos motivations, aborder en effet cette élection n'est pour vous pas de gérer la ville forcément, mais surtout de témoigner des luttes sociales et offrir une tribune politique aux travailleurs contre le capitalisme. Est-ce que j'ai à peu près résumé votre état d'esprit ?
Pas tout à fait, parce qu'il ne s'agit pas parce que d'une candidature de témoignage, mais d'une candidature d'appel au combat. L'idée, ce n'est pas simplement d'expliquer. Bien sûr qu'il s'agit de dénoncer ce qui se passe au niveau des travailleurs, la dureté de la crise, les fins de mois qui deviennent de plus en plus dures. Les conditions de travail qui se détériorent, et puis on voit aussi le chômage qui prospère avec la misère, ça c'est sûr. Et nous on veut dénoncer et on veut aussi expliquer les causes, que c'est pas une fatalité, que derrière il y a la lutte des classes, et derrière la lutte des classes, bah, justement, il y a ce patronat, ce grand patronat de plus en plus rapace qui ne peut s'enrichir, comme il le fait actuellement de façon éhontée, qu'en démolissant les conditions de travail, en bloquant les salaires, en augmentant les prix et puis en fermant des usines.
Alors je ne vais pas dire que vous êtes rompu à l'exercice politique, mais vous avez déjà testé les élections. C'était dans le cadre d'élections municipales à Dieppe, mais aussi aux législatives. Aujourd'hui, vous vous présentez ici au sein de cette future municipalité de Rouen. Pourquoi avez-vous souhaité vous porter candidat justement à ces élections municipales aujourd'hui ?
Alors, d'abord... je suis une tête de liste, mais notre idée fondamentale à Lutte ouvrière, c'est de dire qu'il faut que les travailleurs ils se mêlent de politique, qu'ils ne laissent pas ça à des experts, qu'ils ne laissent pas ça à des politiciens professionnels, à des carriéristes, qui leur expliquent en permanence que finalement, bah, c'est eux, les politiciens, qui vont trouver les solutions et que ce n'est pas les travailleurs eux-mêmes. Bah, nous, justement, on pense le contraire. On pense que c'est aux travailleurs d'intervenir dans la vie politique pour défendre leurs intérêts, de discuter des événements, de discuter aussi de la situation sociale. Bref, tout ce qui, en fait, les concerne plus directement, finalement, parce que finalement, tout ça, ça se traduit, et qu'ils y réfléchissent par rapport à leurs intérêts de travailleurs.
C'est-à-dire, pour résumer, que le prolétariat doit avoir sa place comme les hommes politiques que nous côtoyons aujourd'hui.
Oui, et puis à travers, en fait, un parti. Parce que moi, je crois que le problème aujourd'hui qui manque cruellement pour les travailleurs, c'est un parti qui regroupe les travailleurs, quelle que soit leur origine, quel que soit leur secteur, et qui se fixe pour objectif de défendre leurs intérêts politiques. À savoir... par rapport à la place qu'ils occupent dans la société, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur le plan politique pour arriver à se débarrasser d'un système qui les oppresse, qui les exploite.
Avant de revenir sur cette notion d'oppression en termes de travail, pour rebondir aussi sur votre profession, puisque vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée, en tant que professeur, vous avez dû voir justement, et on a posé la question au niveau universitaire à Amaury Renault il y a quelques dizaines de minutes, ce certain délitement de l'éducation, du système éducatif. Quel est votre regard, quel est votre constat aujourd'hui sur l'éducation ?
Alors. Le constat, oui, effectivement, on voit au niveau des classes qui sont de plus en plus chargées, fait qu'il devient de plus en plus difficile de donner une éducation qui corresponde aux jeunes. Ça, c'est une chose, mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre les causes. On ne peut pas doubler le budget militaire et en même temps sans s'en prendre au service public, voyez. Et donc en fait c'est ça ce que ça traduit. Ça traduit le fait que dans l'éducation, mais dans les hôpitaux, dans le logement social, dans les transports, etc., il y a toute une série d'attaques qui visent et qui a pour conséquence, une dégradation accélérée de services qui sont utiles aux populations. Là, ce qu'on constate, la menace pour l'année prochaine, c'est 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, 250, 300, plus de 300 pardon, dans l'académie. Et donc ça veut dire que oui, il va y avoir des postes en moins, donc des classes qui vont fermer, des écoles, voire même des écoles qui vont fermer. Et tout ça, effectivement, ça se fait au détriment de la population. Mais vous savez, surtout au niveau des classes populaires.
Et pour reprendre l'expression, les caisses sont vides, mais pas pour tout le monde.
Ah ben même à l'autre bout de la société, effectivement, là, les caisses sont pleines et débordent. Voyez, alors, ce n'est pas un communiste révolutionnaire qui a publié ce chiffre-là, c'est la commission du Sénat. Il y a une commission d'enquête du Sénat pour savoir, finalement, dans toutes les aides distribuées aux entreprises, soi-disant pour l'emploi, etc., combien, en fait, à quoi elles servaient. Est-ce que, bon voilà, on va essayer un peu de tracer l'argent. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, ils ont du coup donné un chiffre qui est quand même faramineux, à savoir qu'il y avait 213 milliards d'aides aux entreprises privées, en fait aux grands groupes privés, qui font déjà des milliards et qui en fait se gavent de toutes ces aides publiques.
On parle entre autres du CICE.
Le CICE, oui, effectivement, mis en place par Hollande. Mais il y a aussi tout ce qui est baisse de charges, etc. Aide à l'exportation. Enfin, toute une série de cadeaux, une pluie de cadeaux qui vont des poches des travailleurs dans les coffres-forts des grands groupes capitalistes et des grandes fortunes capitalistes. Les Bernard Arnault, les Bouygues, les Muliez, enfin, j'en passe et des meilleurs.
Pour revenir justement sur ce message commun, puisque 250 listes, si j'ai bien le bon chiffre, Lutte Ouvrière se présente au niveau des municipales 2026 aujourd'hui, c'est justement ce terme du capitalisme qui, pour reprendre vos mots, mène à la concurrence, une guerre économique qui devient une guerre tout court.
Bah, c'est ce qu'on constate, hein. Si vous voulez, ce qu'on constate, c'est que finalement, d'abord, le capitalisme, c'est en fait toujours, ça a toujours été accompagné de guerre. Hein, ça, toute l'histoire le montre. Et puis là, on voit bien que on est suspendu aux tensions internationales, aux tensions économiques, à la guerre commerciale, etc. Et aux affrontements actuels et à venir entre capitalistes. Donc, effectivement, la recherche du profit. La recherche de qui va contrôler les gisements de matières premières. On voit bien, par exemple, au Venezuela, le pétrole au Venezuela, qu'est-ce qui va le contrôler? Bon, et autrement, en Afrique, et le Moyen-Orient, il est à feu et à sang depuis des décennies, parce que bien sûr, il y a la volonté des grandes puissances impérialistes d'avoir la main basse sur les ressources pétrolières. Donc pour cela, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à diviser les populations, à intervenir, à mettre en place des dictatures pour pouvoir piller les richesses des pays pauvres. Vous voyez, en Ukraine, bah, voilà, c'est les terres fertiles, c'est aussi les terres rares. On a vu Trump parler à Poutine pour savoir comment ils allaient se répartir l'Ukraine, et ensuite Trump se tourner vers les dirigeants ukrainiens pour leur dire bah moi maintenant ce que je voudrais c'est qu'on puisse avoir accès aux terres rares ukrainiennes. C'est des brigands qui ont construit le monde tel qu'il est et qui sont prêts à le mettre à feu et à sang pour pouvoir conserver leur main mise sur l'ensemble des richesses de la planète.
Je veux revenir aussi, puisque vous dites que cette guerre, en effet, économique est à l'origine des problèmes des travailleurs, c'est-à-dire qu'il faudrait changer de modèle économique, d'avoir une alternative. On parle aujourd'hui de plus en plus d'ESS, d'économie sociale et solidaire, que ce soit sur les valeurs qui sont portées que sur le développement économique. Est-ce que pour vous, ça peut être justement une bonne alternative, que ce soit économiquement parlant, mais aussi pour les travailleurs et travailleuses qui gravitent sur cette notion d'économie ESS?
Alors, bon, moi, je ne suis pas pour contourner le problème, même si, rien contre, hein, c'est économie solidaire, mais les grands monopoles, vous savez, les monopoles de l'énergie, les grands monopoles, que ce soit au niveau des industriels, bon, mais ça, finalement, c'est à ça qu'il va falloir s'attaquer. Les grandes banques, il va falloir s'attaquer à ça. Si on ne s'attaque pas au cœur du système, on n'arrivera pas à changer la société. Or, au cœur du système, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des dizaines, des centaines de millions de travailleurs qui ont comme intérêt de ne plus subir la loi du profit, ne plus subir la précarité, ne plus subir la peur d'être licencié demain. Donc, ces dizaines et centaines de millions de travailleurs, nous, on est persuadés qu'à un moment ou à un autre, ils vont remettre en cause ce fonctionnement capitaliste et qu'ils vont prendre les choses en main pour bâtir une société qui fonctionne, non pas justement selon la concurrence, la recherche de profit, mais selon les intérêts de toute la population. Qu'on ne produise pas pour enrichir des milliardaires, parce que c'est ça ce qui se passe actuellement, mais qu'on produise pour satisfaire les besoins de tous. Moi, il y a quelque chose qui me révolte particulièrement, c'est de savoir qu'on pourrait nourrir 10 milliards d'individus, ça c'est les chiffres de l'ONU, et alors aujourd'hui on est 8 milliards, et il y a 800 millions d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont dans la sous-alimentation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on produit que si ça rapporte du profit au patron. Et bien, c'est ça le problème. C'est qu'on devrait faire que ces moyens de production ils soient mis au service de la collectivité et pour résoudre les grands problèmes.
Avant d'en venir sur la question étudiante et enseignement supérieur avec Alexandre, j'avais une autre question. En effet, il y a les dirigeants, le patronat pour l'appeler tel qu'il l'est, il y a aussi les modalités aussi d'employabilité, puisque on a vu il y a une certaine forme de précarisation, pas forcément que salariale, dans l'intitulé même du contrat de travail. Là on le voit via les je sais pas si on peut les qualifier d'entreprise, mais en tout cas d'intérim, boîte d'intérim, hein, c'est souvent l'expression qui est plus souvent usitée, qu'il y a maintenant une nouvelle appellation qui s'appelle CD2I. Donc ce sont des intérimaires en CDI, mais qui peuvent changer d'employeur du jour au lendemain. Il y a aussi cette notion-là, j'imagine que vous combattez, au-delà évidemment des dirigeants même, c'est des modalités aussi d'employabilité.
C'est eux qui les mettent en place. Ça, le grand patronat, il a une imagination sans borne pour savoir comment il va pouvoir exploiter le plus à son profit les travailleurs. Et regardez, moi, ce qui est quand même frappant, là, c'est l'annonce qui a été faite par le dirigeant du MEDEF de vouloir remettre en place le CPE, d'une certaine façon, le contrat de première embauche, hein, c'est-à-dire en fait des contrats réservés aux jeunes qui seraient encore plus précaires et plus mal payés encore, vous voyez. Donc ça, en permanence, ils ont fait ça, ils ont toujours... D'ailleurs, leur système, il repose là-dessus, sur le fait qu'ils mettent en concurrence les travailleurs pour pour faire baisser les salaires, pour mettre les salaires au plus bas, pour faire plus de profit. C'est ça, c'est la lutte des classes, ça, c'est sûr. Alors après, bien sûr que là-dedans, il y a aussi la complicité des partis qui se sont succédés au pouvoir. Bon, le CPE, c'était... comment il s'appelait
J'ai un doute, là. J'avoue que ça... Il y a assez longtemps.
C'est le CDI jeune, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais. On peut le regarder temps
enfin,
que...
Ça, là, ça ne me revient pas, mais c'est le ministre des Affaires étrangères, là.
Je peux regarder celle-là.
Voilà, donc l'intérim s'est développé de façon considérable, quel que soit le gouvernement. Il y a eu aussi les employeurs. Enfin, bref, toute une série de contrats, effectivement, qui visent à finalement faire pression sur les travailleurs.
Et concernant justement cette volonté de vous présenter à la municipalité de Rouen, j'imagine qu'évidemment c'est prendre cette occasion-là pour porter la voix des travailleuses et des travailleurs.
C'est tout à fait ça, c'est ce que je voulais dire, je suis tête de liste, mais c'est aussi on est 55 travailleuses et travailleurs à se présenter, et c'est cette idée-là aussi, c'est qu'on a des travailleurs, justement, des ouvriers, des employés, des enseignants, des auxiliaires de vie, bref. C'est le monde du travail, en fait, qui prend la parole à travers notre liste. Et ça, effectivement, on tient à ce que, y compris les travailleurs dans la ville, ils puissent se reconnaître à travers ceux qui sont sur notre liste. Se reconnaître avec l'idée que ce sont des travailleurs qui, eux aussi, ont subi la hausse du coût de la vie, la précarité, enfin, les problèmes de logement, enfin tous ces problèmes-là, ce sont des travailleurs qui les sur notre liste qui les subissent, mais qui justement ne se résignent pas à ça et veulent dénoncer les responsables et dire en quoi finalement, bah oui, à travers leur candidature, ils veulent appeler au combat les autres travailleurs.
Alors juste avant de laisser la parole à Alexandre, je viens de retrouver l'information justement pour être le plus exactement, donc pour revenir à l'article évidemment de nos confrères de France Info, dans le pas de concertation en janvier 2006, le Premier ministre Dominique de Villepin annonce le nouveau contrat et espère que les employeurs embaucheront plus facilement grâce à ce CPE, alors que le taux de chômage des jeunes est déjà à près de 25%, il n'y a pas de concertation préalable, Villepin bouscule l'ordre du jour. Pour faire passer son texte au plus vite, il utilise le 49-3 face à la gauche très virulente et le texte a adopté via parlementaire, le 9 mars 2026. On avait déjà un avant-goût du 49-3 finalement.
Oui, alors si je peux rajouter, moi j'espère d'ailleurs que la provocation patronale, elle arrivera peut-être à la même réaction, c'est que, regardez, ils avaient passé par le 49-3, ça avait été passé à l'Assemblée, sauf qu'après, il y a eu une mobilisation énorme de la jeunesse et aussi du monde du travail, et que Villepin il avait dû finir par avaler son chapeau, voyez, et c'est ça aussi que on veut dire à travers cette candidature, finalement les travailleurs, s'ils prennent conscience de leurs intérêts, finalement ils peuvent arriver à imposer leurs intérêts, et ça je trouve que ça c'est ce qui s'est passé en 2006. C'était justement une démonstration que les travailleurs ne sont pas condamnés à subir, et quand ils décident de lutter et de s'organiser, ils peuvent faire reculer n'importe quel gouvernement.
Je laisse Alexandre prendre le relais.
Alors, lors du débat organisé par le Club de la Presse de Normandie, vous n'aviez pas beaucoup parlé des étudiants, non, c'était pas le sujet, oui. Et on ne vous a pas vu non plus hier au débat...
J'avais pas été invité.
Méridio, mais je crois qu'il y avait une sélection. Enfin,
ils avaient dit qu'ils avaient invité tous les candidats.
Je n'ai pas reçu d'invitation.
Enfin, mais du coup, on ne sait pas trop ce que vous... Les idées que vous avez pour les étudiants, donc est-ce que vous avez un programme dirigé vers la jeunesse ou les étudiants de manière générale dans votre candidature ?
Alors, bon, ce que je veux dire, c'est que nous, on ne fait pas un programme électoral.
Oui.
C'est la première chose, on ne va pas faire des promesses, hein, ce n'est pas notre façon de voir les choses, parce que de toute façon, on pense que ceux qui font des promesses, là on voit qu'il y en a, ils ont je ne sais pas combien de mesures, etc. De toute façon, ils feront ce que les patrons, ce que le grand patronat, et même, je vais vous dire, même l'état-major, parce qu'on en est là quand même aujourd'hui, leur diront de faire. Et là, moi, ce que je vois, c'est que la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi la perspective ? La perspective, c'est demain de se retrouver, comme on voit en Ukraine, comme on voit à Gaza, comme on voit dans plein de pays, c'est de se retrouver avec un uniforme pour aller combattre sur le front, risquer leur peau, et risquer leur peau pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi on nous dit, là, va falloir s'apprêter ça, c'est le chef d'état-major, là, Mandon, qui le dit, il va falloir que nous, on s'habitue à sacrifier nos enfants. Mais pourquoi ? C'est quoi les objectifs ? On nous dit, voilà, la France, au nom de la démocratie et au nom de sa souveraineté, devrait s'apprêter à se défendre. Mais ça, c'est des mensonges. Les guerres qu'il y a actuellement, c'est pas, c'est lié à l'organisation du monde capitaliste tel qu'il est. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont en train de s'affronter. Là, on voit les États-Unis qui sont en train de s'armer jusqu'aux dents, d'intervenir à tout bout de champ. Et parce que ce qu'ils veulent, c'est garder la première place. Ils veulent garder leur place de première puissance, et ils supportent pas qu'ils puissent être concurrencés, notamment par la Chine. Et c'est ça le problème. Et alors, la France là-dedans, la France, les interventions de l'armée française, si vous regardez depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était quoi ? Intervenir au Congo, intervenir en Guinée, intervenir au Tchad, etc. Pour défendre quoi ? Pour défendre la liberté, la démocratie ? C'est quoi cette blague ? Ça, c'est une blague. Nous, on veut le dénoncer, y compris tout ça. Et on veut dire, mais qu'à chaque fois,
ça a été pour défendre les intérêts de Total, de Bolloré et compagnie. Donc déjà, nous, par rapport à la jeunesse, c'est ça qu'on veut dire aussi, c'est que surtout ne pas se laisser embrigader, comme on le dit par rapport aux travailleurs, et je peux vous dire, il y a beaucoup de travailleurs qui sont tout à fait conscients du risque de la guerre et qui, avec qui on discute là-dessus. Donc, par rapport à la jeunesse, bah, moi, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr que la jeunesse actuellement, la jeunesse étudiante, mais c'est... les futurs travailleurs, donc leur intérêt, il est aussi de comprendre leurs intérêts de futurs travailleurs.
Lors du débat organisé par, encore une fois, le Club de la Presse, on vous avait montré une photo de Rouen en 2066, le débordement de la Seine, comme c'est un peu le cas actuellement en Gironde.
Ouais.
J'ai eu un blanc. Et comme c'était d'ailleurs le cas, hein, la Seine avait débordé plusieurs fois à Rouen il y a maintenant 100 ans à peu près. Et vous aviez répondu que le communisme est urgent pour éviter des catastrophes écologiques. Alors, en quoi le communisme pourrait éviter des catastrophes écologiques telles que le débordement de la Seine, en l'occurrence ?
Oui. Voyez, ces phénomènes-là, d'abord, effectivement, c'est ridicule de penser que ça va être résolu à l'échelle d'une municipalité, mais enfin, comme tous les grands problèmes, et même à l'échelle de la France. Tous ceux qui nous disent qu'ils vont avoir un programme pour résoudre ces grands problèmes-là, c'est la démagogie électoraliste. Après, pourquoi l'humanité, elle n'est pas maître de ces moyens de production et des conséquences de ces moyens de production. C'est ça le problème quand même qui se pose. Or, quand on voit le gâchis en termes de travail, en termes de production, l'organisation chaotique de la production, et puis le fait que ce qui intéresse les capitalistes, c'est pas les conséquences, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire du pognon ? Il n'y a quand même qu'un système qui était capable d'inventer quelque chose qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est quoi cette idée de produire des objets dont on prévoit et même on organise la fin de fonctionnement, la fin d'utilisation ? Bon ben, ça, un système qui est capable de faire ça, des absurdités comme ça, mais il est évident qu'il est absolument incapable de pouvoir résoudre le problème de l'environnement. Regardez là, il y a des COP là. Alors, ils nous font des COP, ils font venir des experts du monde entier, par avion, etc. D'ailleurs, ils les font venir des scientifiques qui expliquent écoutez, on a mesuré, etc., d'après nos calculs, si on ne fait pas quelque chose d'urgent. Ça se fait depuis 30 fois. Il y a COP 30 maintenant. Ça montre bien que ces dirigeants, ils sont incapables de pouvoir même maîtriser les conséquences de leur système. Parce que c'est la propriété privée des moyens de production. Et il n'y a aucune COP qui a empêché Total, Chevron, ou je ne sais pas trop qui est de créer de nouveaux gisements de pétrole. Là, Total, ils sont en Tanzanie, ils dévastent tout. D'ailleurs, avec des conséquences terribles pour des milliers, des dizaines de milliers d'agriculteurs qui ont été chassés de leurs terres avec la dictature derrière soutenue par Total. Bon. Par contre, une société où ce seraient les travailleurs qui feraient fonctionner la production, qui la feraient fonctionner pour répondre aux besoins de l'ensemble de l'humanité, mais aussi en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que ce ne serait pas le critère du profit de la concurrence, ce ne serait pas la loi de la jungle, ce serait comment on fait pour planifier la production et même recenser les besoins réels de la population. Et c'est ça qui serait la différence. Un monde aussi où ce ne serait pas la rivalité entre États, mais ce serait une association de toute la population mondiale. Vous voyez, et ça... Ça peut se faire que si, d'abord, on se débarrasse de la domination des capitalistes, de cette classe-là qui est une classe de rapaces et qui mène le monde dans le mur, et deux, si on met en place un système rationnel de production. On planifie la production. on essaie de voir justement quelles sont les conséquences. Et ça, ça ne peut se faire qu'à travers la propriété collective des moyens de production.
Donc vous êtes pour une démocratie plus directe. Enfin, vous aviez d'ailleurs parlé, vous n'avez pas parlé, c'est la photo que vous avez montrée quand, à la séquence C'est mon projet, vous aviez montré une image de la commune de Paris en mentionnant la Révolution. Et est-ce que, parce que du coup la commune de Paris s'était localisée à Paris, est-ce que une commune de Rouen, ce serait une bonne idée?
Non, mais j'ai pris l'exemple de la commune comme gouvernement des travailleurs. Pour la première fois dans l'histoire, il y a eu le gouvernement de travailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'à ce moment-là, Marx, Engels et les autres militants révolutionnaires, ils ont regardé, ils se sont dit, mais c'est, voilà, on se posait le problème de comment les travailleurs pouvaient gouverner la société. Bah là, on l'a eu sous les yeux. Et ils ont été capables de mettre en place, effectivement, l'État le plus démocratique qui ait jamais existé jusqu'alors. Et de permettre aux travailleurs, alors des conditions terribles, hein, parce qu'il y avait le siège de Paris, c'était quand même des conditions extrêmement...
Mais les
travailleurs prennent en main la société et commencent à la transformer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'un côté des gouvernements qui sont aux mains des riches, mais des gouvernements qui étaient composés de travailleurs et qui étaient sous le contrôle actif de la population travailleuse parisienne. Et là, effectivement, c'est là où ils ont commencé à transformer la société. Alors, ça a duré 71 jours. Ils ont été écrasés justement par la bourgeoisie qui, justement, à cette époque-là, a été frayée de voir, finalement, là, en face de nous, on a la société qui peut nous renverser. Et c'est pour ça qu'ils ont été impitoyables. Et à travers, bien sûr, le fait que l'objectif des communards, vous savez, c'était la République universelle des travailleurs. Donc, c'était cette idée-là. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que le champ international a été créé. Hein. Donc, il y avait cette volonté d'émanciper les travailleurs du monde entier. Et ça, bien sûr, il est évident qu'on ne pourra changer la société que si on le fait à l'échelle mondiale. Et c'est ce que la révolution d'octobre 1917 aussi a commencé à faire. C'est-à-dire, voilà, d'abord, pour arrêter la boucherie de la Première Guerre mondiale, parce que c'est quand même suite à la révolution d'octobre et à la vague révolutionnaire en Europe que la Première Guerre mondiale, les impérialistes, ils ont été obligés face à la contestation révolutionnaire d'arrêter la guerre. Et puis, à travers le système des soviets, donc en fait de parlements ouvriers, qui ont pris le pouvoir, là aussi, ils ont commencé à mettre en place un gouvernement des travailleurs et ils ont commencé à changer la société. Alors, le problème, c'est que c'est resté isolé, que ça a entraîné toute une série de problèmes en termes de misère et puis ensuite la constitution d'une couche de privilégiés, les bureaucrates représentés par Staline qui ont trahi la révolution. Il n'empêche que ces exemples-là sont des exemples comme quoi les travailleurs se sont portés candidats à transformer le monde. Et bien ça, effectivement, je crois que ça reste toujours d'actualité, même c'est urgent que ça s'applique. D'où l'idée, effectivement, que...
D'une commune de Rouen.
Je caricature. D'une commune de Rouen dans une république universelle des travailleurs. Voilà.
Je veux revenir sur une notion justement qui figure ces élections pour en effet reprendre vos mots à peu près ce rendez-vous est d'une certaine manière une opportunité, un porte-voix pour les idées révolutionnaires. Est-ce que c'est aussi une manière pour les travailleurs et travailleuses de reprendre confiance en eux à cette occasion, de reprendre une certaine forme de pouvoir, j'ai envie de dire intellectuel déjà, mais aussi une certaine forme de pouvoir politique?
Alors, de pouvoir politique, au moins d'avancer leurs revendications, déjà. Parce que le problème, c'est vrai que là, dans la période actuelle, on n'entend pas les intérêts des travailleurs. C'est ça le problème, c'est qu'on est inondé d'idées patronales, d'idées nationalistes, d'idées guerrières même. Hein, la France ceci, la France cela. Et justement, qui vise à gommer le fait que dans la société, il y a deux classes. Classe des travailleurs qui produit les richesses et qui fait tourner toute la société. Et de l'autre côté,
bah, la classe des capitalistes, des milliardaires là, qui sont en train de se gaver, en appauvrissant l'ensemble de la société. Donc, c'est cette idée de prendre conscience, que les travailleurs ils prennent conscience de leurs intérêts et de leur camp. Et donc, y compris... Oui, face à l'augmentation des prix, l'explosion des prix, parce que là, si on les écoute, il n'y a plus d'augmentation des prix. Bah, les travailleurs, ils voient bien que quand ils font leurs courses au supermarché, bah, d'abord, ça n'a pas baissé, voire même ça continue d'augmenter. Bon, et ben, dire que ça, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. C'est le produit d'un racket organisé par la classe capitaliste sur le dos des travailleurs. Et donc, de dire, mais oui, ce qu'il faut, c'est que les travailleurs... ils n'ont que leur salaire. Donc bien sûr qu'il faudrait que les salaires, ils augmentent à la même mesure que les prix. Si ça augmente de 10% les prix, bah que les salaires augmentent d'autant. Et même qu'ils puissent aussi, finalement, contrôler aussi ce qui se passe. Contrôler les grandes centrales des supermarchés, c'est-à-dire les grands groupes de la distribution, contrôler les grands groupes de l'énergie, de l'industrie, etc. Et les spéculateurs qu'il y a derrière. Parce que, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que les cours des matières premières, etc., même, vous savez, le cours de certaines denrées alimentaires de base, comme les céréales, bon, bah, en fait, c'est des produits qui sont échangés sur les marchés financiers. Et derrière, bah oui, il y a des groupes financiers qui, eux,
qui spéculent
en rachetant des stocks, en ne les revendant pas tout de suite, ou en spéculant à la hausse, en spéculant à la baisse. Et derrière, bah, c'est bien sûr ici, on voit, d'ailleurs, il y a de moins en moins de gens qui peuvent même, qui ont les moyens de se nourrir. Moi, j'ai vu ça, le nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, il a été multiplié par 2 depuis les années 2010. Donc, vous voyez, ça veut dire que il y a plein de travailleurs, ils n'y arrivent plus.
Y compris d'ailleurs, je me permets de vous couper, excusez-moi, pour les étudiants, puisqu'on voit de plus en plus d'épiceries solidaires, via aussi des grandes organisations, Resto du Cœur, Copains, les U2R, on voit que la précarité aussi alimentaire, elle a explosé auprès des étudiantes et des étudiants.
Ça paraissait incroyable. Oui, effectivement, incroyable. Il y a 25 ans, bah oui, effectivement, on voit ça. On a vu, on voit tous des queues d'étudiants qui devant les magasins d'aide alimentaire. Bah oui, tout ça c'est choquant. Ouais. Oui, bien sûr. Et ça c'est pour dire que bon, oui, ils font de l'argent. Ils font de l'argent comme ça. Et nous, par rapport à ça, l'Outourière, on dit bah oui, il faut qu'on avance nos revendications, augmenter les salaires, augmenter les pensions, augmenter les allocations. Vous voyez. Nous, c'est ça qu'on veut dire. Et que pour ça, bah, de toute façon, c'est là où je vous disais, c'est pas un programme électoral, dans le sens où il est évident que ça ne pourra se faire que s'il y a des mobilisations d'ampleur. Et que les travailleurs, le camp des travailleurs, ils puissent justement utiliser toute la force sociale qu'ils représentent pour arriver à défendre sa peau. Vous voyez, c'est ça, parce que c'est ça le problème. Et de la même façon, bah, par rapport... parce que bon, il y a le problème du salaire, mais il y a le problème du chômage, le problème des licenciements. Bah, nous aussi, on propose aux travailleurs de se battre autour de revendications vitales, notamment l'interdiction des licenciements. Là, vous avez aujourd'hui 200 000 travailleurs qui, sur un an, vont perdre leur emploi. Fermeture d'usines... licenciement, là, Notre-Dame de Bondeville à la semaine, là, ils font des bénéfices records, bah, ils licencient quand même, vous voyez. Bon, là, l'année dernière, Lubrizol, la direction de Lubrizol, voulait mettre en place un plan de licenciement de centaines de travailleurs. Bon, richissime, Lubrizol. Bon, bah, par rapport à ça, oui, nous, on dit qu'il faut interdire ces licenciements. Et on pense aussi qu'on pourra vaincre le chômage que si on se répartit le travail. Parce que, dans le même temps, bah oui, tout le monde voit à l'hôpital, à l'université, dans l'éducation nationale, même dans la construction de logements, dans les transports, qu'il manque des millions de bras. Bon, alors, comment financer ça? Bah, regardons. Qui a vu sa fortune doubler depuis 10 ans? Bah, les 500 premières fortunes. Voilà. Depuis les années 2000... c'est multiplié par 14. Quel que soit le gouvernement, vous voyez. Il y a eu la droite, il y a eu la gauche, il y a eu Macron maintenant. Vous voyez, tout ça, bah, ça fait des milliards et des milliards. L'année dernière, les actionnaires du CAC 40 ont reçu 100 milliards de dividendes. Et l'autre aspect quand même sur lequel je voudrais insister, c'est que la fortune cumulée des 500 plus riches, c'est 1100 milliards. Bah avec ça, il y a de quoi mettre fin au chômage. Mais bien sûr, là, ça veut dire imposer cette politique-là aux capitalistes.
Mais pour augmenter les salaires, mettre un impôt sur la fortune, ce genre de choses-là, pourquoi il y aurait besoin d'une lutte ouvrière, je parle pas d'autres partis, mais d'une vraie lutte dans les rues, etc. Pourquoi les élections seraient pas suffisantes? Parce que maintenant la commune, la commune d'Orange, j'entends pas la commune.
La municipalité.
Historique, voilà. Mais en quoi le combat physique, entre guillemets, est nécessaire?
C'est combat social, d'abord.
Social,
c'est un rapport de force.
Pardon.
Bon, ça, c'est sûr qu'il y a un rapport de force. Mais regardez, tous les droits que les travailleurs ils ont obtenus, les vrais droits, les congés payés, 40 heures, même l'interdiction du travail des enfants, tout ça, c'était arraché par des luttes. Par des luttes gigantesques. Les congés payés, bah, ça fait suite à une mobilisation en 1936 avec une grève générale, avec occupation d'usines. C'est-à-dire que les patrons, ils étaient dehors. Et s'ils ont dû, pour rentrer, ils ont dû d'abord convoquer Blum et le gouvernement de Front Populaire et leur dire, maintenant vous faites passer ça, mais surtout vous débrouillez pour que les travailleurs y mettent fin à leur grève, parce que là ils avaient vraiment la trouille, les patrons.
Oui.
Et là ils ont lâché. Alors c'est ça en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que regardez, même les, on parlait de l'intérim, etc. Mais l'intérim, normalement, la façon dont il l'applique, ça correspond absolument pas à ce qu'il y a dans la loi. Absolument pas. Il utilise tous les moyens pour précariser le travail. C'est-à-dire que, en fait, tout ça, ce sont des rapports de force. Et rapports de force, pour les faire reculer, mais tel que moi, j'imagine, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur les prix, un salaire minimum d'au moins 2 000 euros, etc. Mais ça, va falloir l'arracher. Il va falloir prendre sur leurs profits. Or, regardez, là, ils font des profits et ça ne les empêche pas de fermer des usines, des groupes qui sont richissimes. Donc, vous voyez bien qu'eux, ils n'ont aucune limite. Donc, ça, par rapport à ça, bien sûr que, à part construire un port de force et utiliser la place qu'ont les travailleurs dans la production, à savoir que c'est eux qui font tout tourner et que le jour où ils se croisent les bras, il n'y a aucune richesse qui sort. C'est ça, en fait, que c'est ce poids-là qu'ont les travailleurs, qu'il faut qu'ils utilisent pour, là je le dis encore, vendre chèrement leur peau. Voilà, c'est ça le problème. Vous
avez évoqué les grèves en 1936, mais si par exemple, parce qu'au final les travailleurs ont convoqué les Umblum, etc., mais si les Umblum étaient avec une majorité parlementaire communistes au Parlement, est-ce qu'il y aurait vraiment eu besoin de ces grèves pour faire passer des mesures?
Je vous explique quand même ce qui s'est passé, c'est que la majorité, il y avait une majorité des Front Populaire. Cette majorité, d'abord, une fois que les grèves de 36, justement, elles sont retombées, d'abord, assez vite, ils ont repris les 40 heures. Vous voyez ? Et il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 1940. C'est-à-dire que l'Assemblée issue du Front Populaire a voté les pleins pouvoirs à Pétain. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, ces députés-là, ils ont été suffisamment veules pour donner les pleins pouvoirs à un général d'extrême droite, un maréchal d'ailleurs. Oui. Donc non, c'est pas à travers les institutions de la bourgeoisie que les travailleurs ils vont trouver une solution. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que les dirigeants du CAC 40, ils sont élus par qui? Les dirigeants de Total, élus par qui?
Et ça, c'est eux qui ont en main l'économie. Bah, ils sont élus par personne. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est eux qui dirigent l'économie, c'est eux qui accumulent les richesses produites par les travailleurs, et ils n'ont absolument pas élus. Les PDG, si, ils sont élus. Vous savez par qui ils sont élus? Par les actionnaires. C'est-à-dire par des gens qui n'ont comme objectif que d'accumuler du pognon. Bon, ben voilà, une telle société, ben, bien sûr que ce n'est pas à travers ces institutions qui protègent la propriété privée que les travailleurs y trouveront gain de cause. C'est par leur lutte, par leur organisation, par la démocratie ouvrière, dans le sens une démocratie fondée sur les luttes, ou que ce soit entre nous, qu'on puisse décider, que là, on va pouvoir imposer nos intérêts, sachant que le système capitaliste, bah oui, de toute façon, le système capitaliste, comme son nom l'indique, il est destiné à accumuler du capital privé. Bon, bah ça, un tel système, bien sûr que c'est pas à l'avenir, et qu'il va falloir renverser. D'autant plus, parce que c'est quand même de plus en plus beau, d'autant plus qu'ils sont en train de préparer la guerre. Et eux, quand ils préparent la guerre, bah ça, ils certainement pas qu'ils s'appuient sur la démocratie, hein. Là, eux, ils imposent et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour envoyer les travailleurs, les pauvres, se battre entre eux, parce que c'est ça aussi, ces guerres, pour leurs intérêts à eux. Ben ça, justement, un tel système, il faut le renverser. Et ça, on ne va pas le renverser par un référendum, par... Non, ça, c'est de la blague. Ça sera des mobilisations gigantesques des travailleurs qui s'organiseront à tel point que ils prendront le pouvoir. C'est ce qu'on appelle une révolution.
J'ai une dernière question avant de vous laisser votre carte blanche, comme l'ensemble des candidates et candidats pourront évidemment utiliser. On parle en effet d'un pouvoir qui peut être politique, en effet, de prendre la voie à l'occasion de ces municipales ici à Rouen pour cette année 2026. Est-ce que ça ne doit pas aussi passer par un certain pouvoir intellectuel? Je reviens un petit peu sur cette notion-là, parce que c'est vrai qu'évidemment, comme vous l'avez précisé, ça se passe dans la rue, ça se passe dans les usines. C'est un combat qui doit être mené en effet en extérieur. Est-ce que ça doit être aussi un combat qui doit être mené d'une certaine forme intérieurement parlant? Pour ça, quand je parlais de cette notion d'intellectualisation des idées, que ça doit aussi se passer sur les bancs de la fac, puisque ce sont aussi de probables futurs dirigeants, de futures personnalités qui émergeront des bancs des universités. Bon, public évidemment, je parle de l'université publique, mais est-ce que la lutte et le combat doivent aussi passer par là?
Bah, oui, alors bien sûr, tous ceux qui ont la chance de pouvoir faire des études, de pouvoir... compris découvrir l'histoire, découvrir les idées, bien sûr que eux, moi je les appelle à rejoindre le combat révolutionnaire. S'ils sont convaincus qu'il faut changer le monde, bien sûr que qu'ils utilisent leur culture, qu'ils utilisent ce qu'ils ont appris, mais pour le retourner d'une certaine façon contre le système, bien sûr. Après, vous savez, les travailleurs... ils ont une intelligence ou ils ont quelque chose que des intellectuels d'une certaine façon n'ont pas, je pense, c'est que eux ils sont confrontés à l'exploitation. Ils ont directement le système en face d'eux. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui leur donne aussi la possibilité de savoir ce qu'il faut changer. Si demain la société change, il y a une révolution, ils sauront très bien ce qu'ils ne veulent plus.
Y compris dans l'alternance, d'ailleurs, toute la filière professionnelle qui a été, depuis de très nombreuses décennies, qui a été dénigrée, laissée de côté. Là, on en voit les conséquences, puisque entre pénurie de main-d'œuvre et malheureusement, on arrive à une forme de critique, du coup, en termes d'employabilité. On l'a vu aussi que là, ce sont des décisions politiques qui ont été prises il y a plusieurs dizaines d'années, qui ont encore des conséquences aujourd'hui.
Oui, alors, comment dire, des fois, là-dedans, il y a aussi des polémiques qui sont en train de mettre en place. Alors, moi, je suis d'accord hein, sur le fait que, bon, les économies qui ont été faites sur le lycée professionnel, etc., etc., c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Après, ceux qui nous parlent du fait que, voilà, l'employabilité, etc., serait pas suffisant. Enfin, c'est quand même faire croire c'est un moyen de dédouaner, je trouve, aussi les patrons. Parce que finalement, s'il y a du chômage et des choses comme ça, ce ne serait pas la faute des patrons. Comprenez là, les 200 000 travailleurs qui vont se retrouver sans leur boulot demain. Bon, bah, ils sont employables. Hein. Tout le problème, c'est que là, c'est les patrons qui décident que désormais, on vous met à la rue. Voyez. Donc, des fois, il y a cet aspect-là. Où ils vont pas justement le mettre en avant, ils vont essayer de trouver d'autres explications. Bah, c'est de ce point de vue-là aussi que je trouve pour trouver des fausses excuses, ils sont forts, quoi. Voilà, hein, c'est jamais la faute des patrons, c'est jamais la recherche du profit qui explique le chômage, c'est toujours autre chose. Et vous voyez, y compris, bah, ça va même jusqu'à des choses qui sont des idées abjectes comme celle du RN et l'extrême droite. On explique rien. Tous les problèmes, tous les maux, ça vient de l'étranger. Enfin, vous voyez, d'ailleurs, l'extrême droite, et puis de plus en plus les macronistes et compagnie, vous voyez, donc trouver des fausses excuses, trouver des boucs émissaires, ça, ils savent faire. Mais le trouver, dénoncer, expliquer, ouais, où sont les vrais responsables des grands maux de la société, à savoir les grands patrons, les capitalistes, la dictature des actionnaires, ça justement jamais. Oui.
Et on va vous laisser justement quelques minutes pour la carte blanche et le mot de la fin avant de terminer cette émission sur le thème, le choix que vous souhaitez évidemment.
Bon, ça a été déjà abordé, mais moi, le thème, ce serait... sur le fait que l'urgence de changer le monde, vous voyez, et donc d'expliquer, bah oui, que moi, notamment par rapport à la jeunesse qui voit que le monde actuel est en train d'aller dans le mur, que ce soit, bon, on l'a évoqué, sur le plan écologique, sur le plan guerrier, sur le plan même de la montée des idées réactionnaires, nationalistes, xénophobes, racistes. Bon, et que effectivement, par rapport à ça, il y a de quoi se poser des questions et de se dire que c'est urgent de changer le monde. Et donc, changer le monde, ça veut dire changer son système. Et changer son système, c'est-à-dire en fait, il s'agit de se débarrasser du capitalisme. Le capitalisme, il fonctionne sur la propriété privée, sur la concurrence. Il a bâti un monde où, en fait, bah, une poignée de pays de puissance impérialiste, de pays riches, puissance impérialiste, imposent leurs lois à la majorité de la planète. Et à l'intérieur de la société, c'est la même chose. On a une poignée de capitalistes, une poignée de nantis, d'actionnaires qui décident de l'économie et qui, en fait, dominent l'ensemble de la société. Alors ça, ce constat, il y en a beaucoup qui le font. Après, moi... ce que je constate aussi, c'est que cette société, elle fonctionne grâce à la masse des travailleurs qui est exploitée, qui fait tourner la société, produit les richesses, mais qui, en fait, est privée du fruit de son travail et subit de plus en plus, bon, on l'a évoqué, précarité, etc. Et c'est cette masse des travailleurs qui est la force sociale pour changer le monde. C'est elle qui peut réorganiser la production, qui peut réorganiser les rapports dans la société, qui peut... réorganiser aussi, débarrasser le monde de la concurrence entre peuples et la logique du profit. Et mettre en place justement une société qui serait basée sur la propriété privée et qui répondrait aux besoins de l'ensemble, c'est-à-dire en fait une société communiste, sans oppression, sans exploitation. Et là, ce qu'on voit dans le monde, c'est qu'il y a des révoltes. Il y a des révoltes importantes, on l'a vu au Bangladesh, on l'a vu aussi au Népal, à Madagascar, au Maroc. Là, il y a eu au début de l'année un soulèvement énorme, énorme, de millions d'Iraniens, de travailleurs, de jeunes, de femmes, pour mettre à bas le régime des mollahs, une dictature religieuse.
Et pourtant, fortement réprimée dans le sang.
Et... tout en sachant, d'ailleurs, il descendait dans la rue et il défiait un régime dont il savait que c'était une dictature féroce et qui s'est maintenu au prix, on dit, de 30 000 morts. Voyez.
Au moins
30 000 morts. Donc, on voit que il y a ces révoltes. Regardez même ce qui s'est passé aux États-Unis, là, à Minneapolis, là où Trump il a lâché sa police, là,
l'ICE,
qui a permis des exactions, arrêter des enfants, enfin des trucs monstrueux. Et là, on a vu la réaction de la population, des travailleurs, qui ne sont pas restés indifférents, mais au contraire, ont organisé la solidarité, ont prévenu ceux qui risquaient d'être arrêtés, ceux qui sont même allés faire les courses, et puis qui les ont défendus. Et on voit que cette mobilisation-là, de milliers, de dizaines de milliers de d'hommes et de femmes, avec le drame, quand même, justement, hein, de morts là, qui ont été tués, assassinés par la police, on voit que cette mobilisation-là, elle a fait reculer Trump. Et ben, ça, pour moi, c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour changer le monde. Alors, tout le problème, j'en terminerai avec ça, c'est que ces révoltes, il va y en avoir de plus en plus. Tout le problème, nous, en tant que révolutionnaires, ce qu'on se pose, c'est que ces révoltes-là, elles n'aillent pas vers des impasses. Et on pense que pour cela, tous ceux qui sont persuadés qu'il faut changer le monde, qu'il faut se débarrasser du capitalisme, eh ben, il faut qu'ils créent un parti, qu'ils construisent un parti. En tout cas, nous, c'est notre objectif, c'est de construire un parti révolutionnaire. Un parti révolutionnaire qui soit un parti ouvrier. Ce que j'ai expliqué, ceux qui ont la clé de la situation, c'est ceux qui sont au cœur de la bête, hein, si je peux m'exprimer comme ça, donc qui pourraient changer profondément la société, pourraient mettre fin au capitalisme. Révolutionnaire, parce que on en a discuté, hein, c'est pas à travers les élections, mais c'est bien en s'emparant du pouvoir, en dirigeant la société nous-mêmes. Communiste, je viens de l'expliquer, et puis aussi internationaliste, parce qu'effectivement, les travailleurs n'ont pas de patrie, et de toute façon, on n'arrivera à changer la société que si on change le monde, et ça sera à travers des luttes révolutionnaires contagieuses à l'échelle internationale. Donc voilà, donc tous ceux qui sont intéressés, eh ben, nous on pense qu'il faut qu'ils nous rejoignent par ça.
Et merci beaucoup Eric Moisan de Lutte Ouvrière pour cette liste que vous conduisez, faire entendre le camp des travailleurs, et merci à vous d'avoir accepté l'invitation et d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Campus Rouen.
Merci à vous.